19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, vous savez qu'on est ensemble encore jusqu'à demain, donc merci de nous suivre, vous êtes en vacances, je vous souhaite de passer de bonnes vacances, vous êtes avec nous, et bien bon courage, plein de bonnes choses. Les informés, c'est parti, c'est jusqu'à 19h et nous sommes ensemble pour commenter, analyser et décrypter surtout l'actualité en ce moment. Et puis, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Alors, au menu, au sommaire de ce soir, qu'est-ce que je vous propose? Tout d'abord, nous irons nous intéresser à WePeps. Alternative, prestation, disponibilité, on va tout savoir, on va tout vous... Voilà, tout vous... comment dirais-je, les éléments clés en main pour avoir une organisation d'événements chez l'habitant, paraît-il. Il paraît que c'est à la mode. Eh bien, on va voir, on va essayer de comprendre, évidemment, de quoi s'agit-il. Ensuite, au sommaire de cette émission, le pouvoir d'achat, les principales mesures de loi. Et vous savez que le bras de fer devient long, pénible, et s'installe au sein du Parlement. Et puis la NUPES, qui s'affronte sur des sujets comme les prestations sociales à l'Assemblée. Bref, peut-on parler de mépris? Nous soulèverons la question tout à l'heure. Gérard Darmanin qui, lui, dit « Nous allons créer 1000 nouveaux postes de policiers à Paris dans les 5 ans. » Est-ce qu'il a droit à une clochette? Oui, je pense. Parce que, bon, on va... pourquoi pas, mais on va comprendre. On va essayer. Vous savez que Laurent Nunez, le tout nouveau préfet de police à Paris, ça y est, il a endossé son habit. Souvenez-vous, c'était l'ancien secrétaire d'État au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron. Le tout premier, bien sûr, je parle. Nous reviendrons sur les députés qui ont voté la revalorisation de 4% des retraites et de la prestation sociale. Mais tout cela, on va essayer de vous donner une vraie grille de lecture. Ça veut dire quoi? Comment? C'est effectif quand? Bref. Et ça touche qui précisément? L'Ukraine, la Russie. Finalement, une question qu'on se pose tous, qui est dans les esprits. Vladimir Poutine, en cette guerre, il cherche quoi au juste? Quelles sont les véritables intentions futures de Vladimir Poutine? Bon, il se voit peut-être en tsar. Mais c'est vrai, c'est possible. Il a droit à une double clochette. Bref, on en parlera tout à l'heure. Et puis vous aussi, au 01 53 48 3000, vous nous appelez, comme chaque soir, partout en France. Vous intervenez et vous commentez l'actualité. Allez, c'est parti. Les informer, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informer avec Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'invité du jour.
Les informer, l'interview.
L'interview pour parler de WePeps avec la cofondatrice qui s'appelle Lena Peterson. Peterson, c'est ça, on dit bien ça, hein?
On dit bien Lena Peterson. Bonjour.
Enchanté. Bonjour ma chère Lena, comment allez-vous?
Ça va très bien, ravi d'être sur votre radio.
Bah écoutez, ravi de partager, bienvenue à vous tous. Alors, vous avez cofondé une plateforme qui s'appelle WePeps. Alors, paraît-il que cette plateforme, vous êtes un peu les magiciens de l'événementiel.
On peut dire ça comme ça, oui.
Exaucez les vœux de certains.
Voilà. Par exemple, alors nous en fait sur WePeps, vous pouvez louer un lieu de particulier, donc ce qui est quand même beaucoup plus sympa que de louer une salle des fêtes ou un restaurant. Là, en toute intimité, vous pouvez louer chez un particulier un jardin, un salon, un rooftop, une péniche pour organiser un petit événement familial ou entre amis.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez l'habitant, par exemple, il a une piscine, il a une terrasse, ou que sais-je, il a une un salon tranquille, cosy, etc. Ça veut dire qu'ils sont présents dans leur maison et en même temps, on peut louer la piscine?
Alors, en fait, les hôtes mettent à disposition les espaces qu'ils souhaitent mettre à disposition. Ils ne sont pas obligés de louer l'intégralité de leur logement. Donc, effectivement, ils peuvent être présents dans une des pièces qui n'est pas destinée à la location. Ouais. Ou alors, ils peuvent également être ailleurs.
Mais quel intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt de faire ça pour l'habitant?
Bah, l'intérêt pour l'habitant, c'est déjà de rencontrer des gens, de pouvoir augmenter ses revenus en recevant des événements. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, c'est un intérêt pour les locataires parce que l'hôte est présent sur place et donc peut les aider. Il faut savoir que sur WePeps, on loue à l'heure. pour justement pouvoir gérer un budget, que ce soit pas trop cher.
Par exemple, en ce moment, il fait super chaud. C'est l'été, la période estivale, tout le monde plutôt bon esprit. J'ai envie d'organiser un barbecue. Comment ça se passe? Je vous appelle?
Alors, vous pouvez nous appeler. On est toujours disponible au téléphone, mais vous pouvez aussi aller directement sur le site, vous inscrire. C'est très rapide. Recherchez un lieu sur WePeps en mettant la date de votre événement, le type de lieu que vous recherchez, la localisation.
Par exemple, un barbecue. Voilà, je veux organiser un barbecue.
Eh bien, vous mettez, si vous mettez, par exemple, Paris, vous cherchez Paris, vous mettez jardin et vous allez trouver tous les jardins à disposition et vous pourrez louer un jardin pour faire un barbecue.
D'accord. Donc, en quelque sorte, si j'ai bien compris, vous nous simplifiez la vie, quoi. Vous êtes des simplificateurs, hein, c'est comme ça qu'on dit, d'événements, quoi.
Voilà, on est des simplificateurs d'événements et surtout, ce qui est important pour nous, c'est vraiment chez WePeps, c'est de l'organisation chez l'habitant, c'est comme à la maison, c'est des lieux chaleureux, vous voyez, c'est ça qui est important.
Donc vous faites la mise en relation oui. à la fois entre l'habitant, les propriétaires, les locataires.
Exactement.
D'accord, ok. Et alors, en ce moment, j'imagine que c'est un sujet d'actualité parce qu'on est en plein dedans là. Donc j'imagine que vous êtes pas mal sollicité durant cette période estivale.
On est très sollicité avec ce beau soleil, même parfois un peu trop chaud ces derniers jours, qui est très présent. Donc il y a un engouement certain sur WePeps en termes de trafic. C'est vraiment très très important. Là depuis le début juillet, on est à plus de 200 000 personnes qui se sont connectées sur le site.
Ah oui, 200 000.
100 000 personnes, 100 000 c'est déjà très bien.
Oui. Bien sûr.
Et toutes les semaines, on a une centaine d'événements qui s'organisent sur WePeps. Voilà à peu près.
Et l'idée de WePeps, vous avez cofondé ça avec, me semble-t-il, votre cofondateur Benjamin. Comment est né ce concept, ce projet?
Alors, en fait, Benjamin et moi avons travaillé dans une autre société et Benjamin était parti durant un week-end. Il a organisé une cousinade où il a pu profiter d'un super barbecue sur place et de retour à Paris, il avait envie de prolonger ça, en fait. Et donc, il a proposé à tous ses collègues d'organiser un barbecue sur Paris, hein, ce qui est mission impossible hein, quand on n'est pas c'est des particuliers. Et donc, ça s'est transformé en simple pique-nique. Mais autour de ce pique-nique, Benjamin et moi, bon, en fait, on a évoqué ce sujet et on s'est dit, c'est quand même dommage de pouvoir louer un lieu, une maison, le temps d'un week-end, mais pas pour quelques heures pour profiter d'un simple barbecue. Donc voilà un peu comment l'idée de WePeps est née. Et de fil en aiguille, on a décidé aussi de proposer à la location les espaces extérieurs, évidemment, pour faire des barbecues, mais également les espaces intérieurs, parce que quand on n'a pas la place chez soi, qu'on veut recevoir une trentaine de personnes, c'est aussi bien, même sur les périodes pas estivales, de pouvoir recevoir sa famille ou ses amis.
Ouais, vous venez un peu bousculer, évidemment, et révolutionner le monde de l'événementiel. Parce que ça peut être, là vous venez de le dire, une location de salle pour un anniversaire, pour un mariage par exemple.
Oui.
Ça peut être aussi une location d'une piscine, une location d'un jardin pour un barbecue. Bref, que ces gens, peut-être location de maison aussi, peut-être, non?
Oui, des locations de maison. D'ailleurs, il y a même, on propose également des forfaits week-end où on peut louer carrément la maison et le jardin le temps d'un week-end. Ça, c'est possible. Certains particuliers proposent des couchages et donc proposent cette offre-là. On peut profiter de l'intégralité d'un lieu également. Il y a certains autres qui proposent juste certains espaces et d'autres qui proposent l'intégralité.
Alors, quand on pense, par exemple, à Airbnb, à toutes ces plateformes, par exemple, Booking, Hôtes.fr, etc. Vous êtes quoi? Vous vous positionnez comment? Comme une alternative? Comment vous vous positionnez avec, évidemment, ces différentes plateformes, Léna, Peterson?
Vous me parlez de location saisonnière. Donc, en fait, nous, sur WePeps, ce n'est pas la location saisonnière, c'est vraiment de la location de lieux de particuliers pour organiser des événements. Ce qui n'est pas le cas d'Airbnb ou de Booking. D'ailleurs, Airbnb a même communiqué là-dessus en disant qu'il ne souhaitait pas que des fêtes soient organisées chez leurs hôtes. Donc, en fait, Airbnb nous a servi un peu de modèle, on va dire, pour mettre en place notre site. en 2017, parce que c'est un très bon site d'intermédiation, mais après nous ne sommes pas un site de location saisonnière. Vraiment, WePEP, c'est la location pour organiser des événements.
Et les événements s'organisent assez facilement quand on vous sollicite, ma chère Lena Petersen?
Oui, ça s'organise très facilement. En fait, si vous êtes intéressé par un lieu,
c'est quoi? C'est parce que c'est votre carnet d'adresse? C'est comment ça fonctionne? Vous avez un réseau?
On a surtout un très bon référencement sur Internet. Si vous cherchez un lieu pour louer, pour organiser un barbecue, faire une baby shower, un anniversaire, un mariage, etc., vous nous trouverez sur Internet. Et donc, c'est là que, que les gens viennent à notre rencontre, ou aussi parce qu'ils nous écoutent sur Beurre FM, ça peut être également le cas. Mais voilà, en fait, c'est vraiment le site qui permet de faire la demande de réservation directement en ligne. Après, si certaines personnes ont des difficultés, WePEP, c'est joignable du lundi au vendredi sans problème.
Eh bien, bah bravo. Franchement, j'aime beaucoup ce concept. Je ne connaissais pas, vous voyez. Et c'est assez bien. C'est assez bien. Donc, j'imagine que cet été, eh bien, ça va bosser, pas mal.
Ça bosse beaucoup et on espère encore plus, mais vraiment c'est incroyable.
Qu'est-ce que vous voulez faire de WePEP à terme?
Ah bah devenir le leader en termes de location de lieux de particuliers pour organiser des événements.
C'est ce que c'est un peu, vous voulez monter en puissance?
Évidemment, évidemment.
Eh bien écoutez, plein de bonnes
toujours
choses à WePEP.
Toujours plus d'offres, toujours plus de locataires. Voilà.
Bon, on a bien compris l'esprit. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent partout en France?
Eh bien, écoutez, venez nous voir sur WePEP. Nous avons des lieux chaleureux, atypiques, très sympathiques pour organiser tout type d'événements en intérieur comme en extérieur. En extérieur, là, c'est l'été. On loue des piscines, on loue des jardins. Vous pouvez faire des barbecues. On loue des rooftops avec des vues sur Paris, par exemple, magnifiques, ou encore des péniches. Donc, n'hésitez pas.
Oui.
Et si vous avez un lieu magnifique à louer, eh bien, n'hésitez pas à contacter WePEP. On vous accompagnera pour que
encore
vous
plus pour ceux qui ne partent pas en vacances, en plus. Hein.
Et encore plus pour ceux qui ne partent pas en vacances. D'ailleurs, on a bien remarqué là que le nombre de locations augmente et que certains de nos locataires qui font également la location saisonnière nous disent qu'à l'heure actuelle, ils louent beaucoup plus sur notre site.
C'est là où
que
c'est intéressant.
De location saisonnière.
Exactement.
Près de l'inflation, très certainement.
Allez voir le site internet WePEP. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est vrai, pour quelqu'un qui part pas en vacances, moi je trouve que ça a tous les avantages d'organiser des événements. Eh bien, bravo, Lena Petersen. Vous êtes cofondatrice de la plateforme WePEP. Et plein de bonnes choses à vous.
Merci.
Bon courage. À très bientôt et on vous souhaite un bel été.
Moi aussi également. Bel été à tous.
Merci. 19h12, nous allons marquer. Tiens, je vais accueillir mes débatteurs. Les débatteurs influenceurs qui vont commenter le sujet d'actualité. Qu'est-ce qui vous fait rire, Jessica et Longuerre? Notre jeune élue. Jeune élue, hein. Je crois que c'est la plus jeune débattrice que j'ai parmi les débatteurs. C'est vrai, vous avez quel âge, Jessica?
21.
Il faut bien rapprocher le micro, hein. Ah, je crois que c'est pas vous c'est pas vous la plus jeune.
Qu'est-ce que c'est?
C'est Mehdi Jaziri. Mehdi Jaziri, il a 19 ans. Le plus jeune journaliste ici. Ah, bonsoir, ma chère Jessica. Comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Élu à Creil. Creil, justement, la ville de la diversité. Et que des élus de la diversité. Hein. Franchement, vous savez ça? Il y en a beaucoup.
Il y a 141 nationalités dans la
ville. C'est vrai. Quand vous regardez les élus, il n'y a que des élus de la diversité. Ça fait plaisir à voir. Il n'y a que ça. Ils vous ont battu la Courneuve, d'ailleurs.
Ça ne m'étonnerait pas du tout.
Je pense que oui. Pourquoi vous dites ça m'étonnerait?
Ça ne m'étonnerait pas du tout.
Ah bon, d'accord, ça ne m'étonnerait pas du tout. Bon, comment ça va mon cher Amine? Ça?
Très bien, et vous-même, Adil?
Élu sur la ville de la Courneuve.
Tout à fait.
Bon, bien dans le micro, hein. Vous connaissez la radio maintenant?
Ouais, je commence à être un habitué, là.
Oui. Bon, allez, on se retrouve tout de suite après pour parler des sujets d'actualité. Ça vous va?
Très bien.
Oui, pouvoir d'achat, c'est un sujet de société.
C'est un sujet important. C'est le sujet le plus important. Même.
Le sujet le plus important. A tout de suite, 01 53 48 3000, n'hésitez pas, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
19h16, si vous venez de nous retrouver les informés, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et avec Jessica Elonguer, élue sur la ville de Creil, avec Amine Sah, l'élu de la Courneuve, Creil 94, Courneuve 93. Allez, tout de suite, nous allons parler de pouvoir d'achat. Vous savez, je vous laisse un peu le choix parce que c'est vrai que les députés ont voté la revalorisation des retraites et des prestations sociales, mais bon, en même temps, l'Assemblée nationale, elle a voté aujourd'hui à la quasi-unanimité, vous savez quoi, cette revalorisation, la pension de retraite de 4%. Bref, il y a aussi ce bras de fer dont on va parler, évidemment, qui s'est installé entre la NUPES et puis les autres. Que doit-on comprendre ? Alors, l'article de revalorisation, il a été enregistré aujourd'hui, vous savez, hier, 296 voix pour et 103 abstentions et 2 contre. Bon, quelle interprétation doit-on avoir, madame, monsieur, surtout lorsqu'on sait que la NUPES s'est largement abstenue sur les revalorisations. Là, j'avoue, il faut qu'on m'explique. Tiens, Jessica, ça vous fait sourire. Non, mais c'est vrai.
Je pense que
à un moment, il faut se mettre d'accord, quoi. Arrêtons, quoi. Si c'est pour être dans l'opposition, juste pour...
Je pense que de toute façon, cette abstention, il faut y voir un signe fort.
Oui.
Et le premier signe, c'est le fait que les 4%, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Aujourd'hui, 4%, ça représente entre 5 euros à 80 euros selon les ménages. Ce n'est pas assez. C'est une compensation finalement.
Donc vous êtes comme la NUPES finalement.
Je ne suis pas contre. Aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a une augmentation, personne ne doit refuser cette augmentation. S'abstenir, ce n'est pas refuser. Donc, ils n'ont pas refusé. Et là, quand même,
ils se sont abstenus. Ah bah, s'abstenir, ça veut dire beaucoup de choses.
Ils se sont abstenus.
Pas tous, d'ailleurs. Pas tous.
Mais ils n'ont pas
refusé. Ah si, sur les revalorisations, largement abstenus, cher ami.
Donc, moi, je pense que, de toute façon, c'est un signe où l'État doit tirer un peu le son de cloche et augmenter, finalement, parce que là, il y a... Même pas une compensation. C'est même pas une compensation, finalement, l'augmentation des 4%. Quand on est un étudiant, il y a une inflation de 5,8. Aujourd'hui, on a augmenté les CEVEC. Vous savez, c'est les contributions de vie étudiante à 95 euros, alors qu'avant, elles coûtaient 90.
Et vous savez de quoi vous parlez en plus ?
En plus, c'est pas assez. Donc, c'est tout ce qu'il faut souligner. Par contre, c'est un geste. Et ce geste, quand même.
Vous savez, non, parce que vous êtes en charge, justement, de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations. Donc, c'est des sujets que vous maîtrisez complètement. Amine, ça, franchement, là, ce Parlement, il s'est transformé quand même en clash permanente.
Bah, je sais pas, il faut attendre de voir quand même. On est sur un texte.
Si, c'est que ça en ce moment.
Oui, ça dépendra des sujets. Là, on est quand même sur. Moi, là où je suis étonné, bon, c'est pas l'unanimité, hein, c'est, on va dire, la majorité des deux tiers, hein, qui ont voté ce texte. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les articles ont été votés d'abord individuellement, puisqu'il y a eu la présentation des amendements sur chacun des articles. Et globalement, on a 73 ou 74% d'adhésion sur ce texte, avec une abstention importante du groupe d'opposition majoritaire, je sais pas comment on doit dire ça, mais
il comprend tout ce texte, faut l'expliquer à nos auditeurs. Il y a les retraites,
c'est un texte.
L'allocation familiale, minima sociaux, RSA, l'allocation adulte handicapé, les bourses étudiantes dont fait référence Jessica Elonguer, bref. Voilà.
En fait, il regroupe le panel global des 20 milliards qui sont mis sur la table pour faire face à la surinflation. Voilà la réalité.
Est-ce que vous dites, comme Jessica, ça ne suffit pas ?
Moi, je dis évidemment, ça ne suffit pas. D'abord, il y a la question de qui paye, parce qu'au final, alors attendez, la première chose qu'il faut entendre, c'est que qui paye au final ? Parce que la question qui oppose tout le monde finalement sur la question de l'augmentation du SMIC, est-ce que on fait payer les entreprises et donc on va dire le capital au lieu d'aller chercher dans la poche du contribuable ? Parce que c'est ce qu'on fait avec ces 20 milliards, c'est de l'argent du contribuable. Au final, il y a quelqu'un d'autre qui paye. C'est qui ? C'est le contribuable. Donc, alors oui, il y a une redistribution vers ceux qui ont le moins de moyens. Ça, c'est
donc,
réel.
Donc, si je comprends votre logique, le contribuable paye, donc on ne peut pas augmenter, on ne peut pas faire plus.
Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en augmentant le SMIC, on va chercher l'argent pour compenser la surinflation.
Il a été augmenté.
Oui, il augmente mécaniquement chaque année en fonction de l'inflation. Attention, il augmente pas toujours, sauf quand on est sur une inflation en deçà des 2%. Donc, c'est-à-dire, si vous avez une inflation à 1,9%, vous n'avez pas d'augmentation du SMIC. Vous n'avez une augmentation que si la barre des 2% d'inflation est franchie. Et donc, ça pose un problème. Donc, là, pour le coup, chaque année, on est plutôt au-delà des 2%, donc il a augmenté mécaniquement. Sauf que là, on est dans une année exceptionnel, où il y a une surinflation. Donc c'est bien qu'il y ait ce bouquet de 20 milliards d'euros qui soit investi pour augmenter le pouvoir d'achat, mais dans les prochaines années, en tout cas dans les prochains mois, il faudra aller plus loin et réfléchir à ce que doit être le salaire minimum.
Donc, si je comprends, si je vous écoute, vous deux,
pays.
En gros, c'est l'inflation, cette revalorisation, elle est inférieure à l'inflation.
C'est une réalité.
Bah oui,
c'est une réalité mathématique.
Ouais.
Pour le coup, Adil Farkan.
Oui, mais bon.
On a globalement une augmentation sur les revalorisations de 4%, alors qu'on est, Jessica l'a dit, autour de 5,8%.
Donc finalement, vous êtes d'accord avec la NUPES.
Ah ben non, moi je pense qu'ils auraient dû le voter. Je pense que sur un texte comme celui-là, il fallait qu'il y ait consensus, notamment parce que je pense que ce qui risque de se passer dans les textes qui vont être un peu plus clivants dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est que la majorité relative présidentielle...
Non, parce que le RN et la NUPES disent que ça ne correspond pas à la réalité de l'inflation de notre pays.
C'est une réalité.
En gros, c'est des miettes.
Je pense pas que ce soit des miettes, par contre c'est du saupoudrage. C'est-à-dire qu'on a 20 milliards d'euros, c'est important, c'est énorme. Néanmoins, c'est un peu, on a l'impression on augmente un peu tout, on met un petit peu partout, et puis on se dit en mettant ces 20 milliards, on va pouvoir relancer comme ça l'économie. Non, ça suffira pas.
Jessica Lorbière.
Après, ce que j'aimerais dire et souligner, c'est que bien que ça a fait déjà 2 ans, on a un président qui nous a quand même répété 6 fois « nous sommes en guerre » et j'ai l'impression que cette notion n'a pas été intégrée de la part des Français. Et aujourd'hui, la majorité la cause de cette inflation première aussi, faut pas l'oublier, c'est aussi nos relations avec la Russie. Où ça impacte l'économie française.
Donc le fautif, c'est Vladimir Poutine.
Non, j'ai pas dit ça. Je dis juste que on est en situation de guerre et que du coup il y a un impact finalement sur l'économie et du coup sur notre pouvoir d'achat. Et de toute façon, il aurait fallu voter en effet cette loi, parce que en effet ce saupoudrage, il est quand même nécessaire, surtout en période de crise. Donc s'abstenir, je pense pas que c'était le message le plus optimal de toute façon.
Que doivent comprendre nos auditeurs finalement? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Parce que dans le quotidien, c'est quoi? Ça se traduit comment? Le sujet clé, c'est quoi en réalité? Par exemple, tiens, le carburant.
Bah ça c'est le point noir. Je pense qu'il y a vraiment
un
problème
un
à ce niveau-là. C'est-à-dire que globalement, quelles que soient les je sais pas comment ils appellent ça, les petites mesures là qu'ils ajoutent qui permettent de réduire le coût du litre d'essence, la réalité c'est que les prix continuent d'évoluer et donc ça ne couvre pas l'inflation. Alors comment ça pourrait couvrir la surinflation qu'on connaît sur les carburants? Donc là-dessus, moi je suis plutôt d'avis pour qu'il y ait une mesure importante de blocage du prix. Voilà, clairement il faut qu'on a, alors il faudra, je sais pas où est-ce qu'on met le curseur, mais bon, à 1,50 ce que disaient les Républicains, ça me paraît important, ça coûte 50 milliards d'euros, ça me paraît difficile à mettre en place, mais néanmoins il faut aller chercher l'aide des compagnies comme Total, etc., qui ont engrangé 16 milliards d'euros.
Je crois que ça a baissé en ce moment, non? Ça a baissé un peu légèrement.
Ah bah, ils ont fait on 16 milliards en tout cas sur le dernier exercice, donc ouais. Ce qui est pas rien.
Mais le carburant, donc, il a baissé là légèrement. C'est pas assez?
En tout cas, on le remarquait pas pour l'instant dans la poche des Français et des Françaises.
Bon, allez, on va poursuivre justement nos sujets et on va avancer, on va tâcher d'avancer justement parce que on va continuer de parler de pouvoir d'achat, mais sauf que j'aimerais qu'on parle de ce SMIC, juste un petit mot là-dessus. Vous savez que la NUPES a proposé un SMIC à 1500. LREM, LR, RN votent contre l'augmentation du SMIC proposée par la NUPES. Justement, pour quelle raison?
Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à savoir qui paye. Si on augmente le SMIC, ce sont les entreprises. Et donc là, vous avez tous les contre.
Mais pourquoi pas y aller finalement?
Tous ceux qui sont contre l'augmentation du SMIC qui expliquent ah non, mais ça va faire. Il y a un certain nombre de PME, TPE qui vont mettre la clé sous la porte, etc. Moi, je suis pour qu'on réfléchisse un peu différemment. C'est-à-dire qu'il faut qu'on remette à plat cette idée du SMIC, cette idée du salaire minimum. Il ne doit pas pouvoir
Tous les amendements, ils ont été rejetés. Hein.
Oui, bien sûr, mais c'est parce que il y a une histoire de posture derrière tout ça. Peut-être que dans 6 mois, dans un an, on va dire on a changé de cap là-dessus. Mais clairement, il faut que l'on ait une approche sur le SMIC qui soit différenciée en fonction du type d'entreprise et donc avec peut-être un niveau de charge qui doit être plus bas ou plus élevé en fonction des secteurs, en fonction des branches, etc. Donc moi, je suis plutôt pour que l'on remette à plat le sujet du SMIC et qu'on rediscute qu'est-ce que doit être le SMIC en France?
Tiens, votre collègue, Fabien Roussel. Je vous laisser répondre. Vous savez ce qu'il dit Fabien Roussel, le communiste, justement? Il dit honte au RN qui se présente comme défenseur des classes populaires et vote contre la hausse du SMIC à l'Assemblée nationale. Il a émis une critique de son côté, justement, Fabien Roussel, le communiste, le député, qui qualifie de petit toutou du macronisme les députés du parti d'extrême droite. Ça, c'est votre collègue.
Je suis d'accord avec ce qu'il dit pour le coup, là, cette fois-ci. Je suis d'accord.
Vous êtes d'accord?
Je suis d'accord avec ce qu'il dit, il a totalement raison. Et je suis d'accord aussi avec l'idée d'Amine qui dit, ben, autant Amine adapter le SMIC à la situation des entreprises. Donc, d'une entreprise de telle taille à telle taille, le SMIC c'est ça. D'une entreprise de telle taille à telle taille, le SMIC c'est ça. Faut savoir que dans les toutes petites entreprises et même... auto-entrepreneur, parce que maintenant il y a une ubérisation où tout le monde est devenu entrepreneur.
Ouais, tout le monde, j'ai vu, c'est vrai, c'est à tout le monde.
Tout le monde.
Il n'y en a pas un qui. Tout le monde, c'est l'ubérisation, vous avez raison.
En effet.
Du statut auto-entrepreneur.
C'est ça. Donc, faut pas oublier que souvent, bah, il y a des toutes petites entreprises où c'est des entreprises, on pourrait dire, plutôt familiales.
Sauf que c'est plafonné quand on est auto-entrepreneur.
Et c'est plus difficile d'augmenter le SMIC, évidemment, pour les petites entreprises, parce que tout de suite, ça met en difficulté l'entreprise. Mais à ce moment-là, l'État peut intervenir sur le niveau de cotisation, par exemple, qui peut être revu à la baisse quand il y a des augmentations de SMIC importantes.
Ou voir aussi à qui appartient sa gestion. Quand aujourd'hui, on sait qu'on délègue une partie de la gestion qui est la récupération des fonds d'entreprise par l'URSSAF et que on voit derrière que finalement c'est un prestataire qui est privé quand même et que on va dire le service n'est pas des plus optimales. Je pense qu'il y a des choses à faire quand même.
Alors finalement, vous savez, certaines entreprises disent que ça menacerait l'activité et les emplois si on porte le SMIC à 1 500 euros. Bon, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se plaide?
Alors on n'a jamais eu on n'a jamais eu de bon aussi significatif avec une augmentation de plus de 200 ou 250 euros si on le faisait. Donc, en réalité, alors ce chiffon qui est agité en permanence de la baisse des embauches avec des résultats catastrophiques sur l'emploi, ça n'a jamais été réellement prouvé finalement. Donc, moi, je ne crois pas que dans les groupes du 440, si on augmentait le SMIC de quelques dizaines d'euros, ça va stopper l'activité. Je n'y crois pas, surtout quand on a des groupes qui engrangent 5, 10, 15 milliards d'euros chaque année. Je crois qu'il y a matière à augmenter le SMIC. Évidemment, il faudra le faire de manière un peu différencié.
Ah, parce que le choix des mots menacerait l'activité, vous vous rendez compte?
Ça n'a jamais été prouvé, alors c'est vraiment...
Et des emplois.
Bien sûr.
On utilise des très grands mots, après c'est... Je pense que je ne suis pas de toute façon une économiste avérée, mais ce qu'on nous dit, c'est que quand il y a un revenu, on a la consommation, on a l'épargne. Mmh. Donc l'individu choisit de consommer, puis d'épargner ce qui lui reste. Aujourd'hui, on constate qu'il ne reste rien. Pour une grande partie de la population.
Exact.
Donc finalement, en quoi ça menacerait, puisque finalement les Français ne font que consommer et il n'y a plus rien à la fin.
Exactement, il y a un niveau de consommation qui est très important et donc il y a on connaît le dicton, hein, c'est les dépenses des uns font les revenus des autres. Ouais. Et donc, plus il y a de consommation, plus les entreprises gagnent de l'argent et donc cet argent-là doit être réinvesti.
Franchement, je vous pose la question, est-ce que la France, elle n'est pas en train de s'appauvrir de plus en plus?
Je n'y crois pas.
Septième puissance quand même, si. Il y a une baisse quand même quelque part. On parle de septième puissance mondiale. Je pense qu'il y a eu quand même que ça se fait ressentir, en tout cas. Et soit.
Alors, les gens partent pas en vacances, de moins en moins. La raison, Jessica.
Alors il y a une partie de la France qui est en train de s'appauvrir, mais ça c'est lié aux inégalités. Mais il y a une partie de la France qui continue de s'enrichir. Il y a des richesses qui sont créées dans ce pays. On est en train de créer un fossé exactement entre toute une partie de la population et l'autre.
Allez, c'est le quoi de neuf, il est 19h30, pile poil. Et comme chaque jeudi, vous savez qui c'est? C'est le patron de l'Iris.
Bienvenue à lui.
Vous le connaissez?
Non, pas du tout.
Bah si, Pascal Boniface.
Ah bah oui.
Bah si, vous le connaissez.
Il l'est toujours.
Bah c'est notre star, bah plus que jamais. Évidemment, c'est parti.
Les informés, le quoi de neuf.
Bonsoir mon cher Pascal Boniface.
Bonsoir Adil, Adil.
Il y a un de nos débatteurs, le maire adjoint, qui disait, est-ce que vous êtes encore le patron de l'Iris? Je lui dis, bah oui, vous êtes toujours le patron, plus que jamais, il me semble.
Ce soir, j'ai pas encore été viré, ça arrive en fait. Pour l'instant, je suis encore à la barre.
Mais moi, pour le coup, je suis plus maire adjoint, Adil Farkas.
Ah oui, c'est vrai, j'ai juste allé, effectivement, ouais. Pascal Boniface, comme chaque jeudi, et c'est la dernière de la saison, avant de vous retrouver, si évidemment tout va bien, pour la rentrée. Pascal Boniface, vous avez fait le choix de votre billet d'humeur concernant Biden en Arabie Saoudite et à Jeddah. On vous écoute.
Oui, Joe Biden a fait une visite en Arabie Saoudite. Il était à Jeddah. Il a vu le prince héritier Mohamed Ben Salman, plus connu sous le nom de MBS, son acronyme. Alors, ça a surpris beaucoup de monde parce que pendant la campagne électorale et juste après avoir été élu, il avait dit, il n'est pas question que je voie le prince héritier.
C'est vrai.
On va en faire de lui un paria.
C'est vrai.
Parce qu'il ne pardonnait pas l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.
Exact.
Qui avait été assassiné dans le consulat saoudien d'Istanbul et qui avait été même coupé en morceaux. Et donc, Joe Biden avait dit qu'il ferait des droits de l'homme vraiment sa priorité et qu'il n'était pas question d'aller voir quelqu'un qui avait du sang sur les mains. Mmh. Il est allé. Alors, on n'y a pas serré la main, il a fait un chèque. Bon, d'accord. Mais il est allé parce que, tout simplement, entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine et puis il s'est rendu compte qu'il avait besoin de l'Arabie Saoudite pour augmenter la production pétrolière, pour faire baisser le cours du pétrole, tout simplement parce qu'il va y avoir les élections de mi-mandat en novembre et que les électeurs américains, lorsque l'essence est chère, ils ont un réflexe, ils votent pour l'opposition. Et donc, si l'essence reste chère, ce sont les républicains qui vont gagner les élections. Mmh. Beaucoup de gens se sont émus en disant aux États-Unis, c'est scandaleux, il a tout cédé, etc. Et même ce sursaut moral, je vais vous dire, me paraît un peu hypocrite. Parce que c'est vraiment une réaction d'insider. Jamal Khashoggi était une figure centrale de Washington. Alors bien sûr, ce qui lui est arrivé est tout à fait inadmissible, scandaleux. Mais pour les journalistes américains qui protestent contre le voyage de Biden, il y a plus à faire pour ce journaliste que pour les dizaines de milliers de yéménites qui ont été bombardés par l'armée saoudienne. Et donc on voit que les morts n'ont pas le même poids. On pourrait dire d'ailleurs que Shireen Abu Akleh, journaliste américaine, qui a été tuée par l'armée israélienne, ne suscite pas la même mobilisation de la part des éditorialistes américains, ni d'ailleurs de Biden. Donc on voit que même quand on met la morale en avant, eh bien, il y a un deux poids, deux mesures à chaque fois. Mais en tous les cas, l'erreur de Biden, c'est d'avoir dressé des lignes rouges et de les avoir pas respectées, parce qu'en fait, eh ben, il est allé un peu s'humilier. Et il a complètement réhabilité MBS, qui est le grand triomphateur de ce voyage, et il n'a rien obtenu. Parce que MDS lui a dit, non, la production de pétrole, c'est l'OPEP, moi j'y peux rien, on va attendre une prochaine réunion de l'OPEP avant de pouvoir augmenter notre production. Et donc Biden a finalement déchiré ses principes. Ceci étant, on savait depuis le départ quand même que pour les États-Unis, l'Arabie Saoudite est un partenaire incontournable et qu'il ne pouvait pas rester en froid comme ça. Mais on voit surtout, c'est que l'époque a changé. Auparavant, les Saoudiens auraient obéi aux Américains.
Oui.
Et si les Américains demandaient quelque chose, les Saoudiens s'exécutaient. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Mmh. Et ils achètent du fioul à la Russie, ce qui gêne bien sûr les sanctions à l'égard de la Russie. Et donc, on voit finalement que les États-Unis sont toujours la première puissance mondiale, c'est indéniable, mais en même temps qu'ils n'arrivent pas à imposer leur volonté à des alliés récalcitrants qui suivent leur voie et qui se disent finalement... cause toujours.
La géopolitique, si j'ai bien compris, est en train de changer.
Oui, effectivement, on voit parce que il y a tout simplement les Occidentaux ne dirigent plus la manœuvre. Ils ont mis des sanctions contre la Russie, mais qu'ils ne parviennent pas à faire plier Poutine parce que les non-Occidentaux ne suivent pas ces sanctions. Et que la grande erreur, c'est de dire on prend les sanctions entre nous Occidentaux et les autres, comme elles disent, suivront. Eh ben non, les autres ne suivent pas, ils ont leurs propres intérêts. Ils vont plus obéir automatiquement et on voit aucun pays africain, aucun pays d'État américain n'a suivi les sanctions décidées par les Occidentaux.
Vous avez bien raison et je rappellerai simplement à nos auditeurs que Joe Biden a été testé positif au Covid-19, 79 ans, et qu'il est en ce moment isolé, mon cher Pascal Boniface, n'est-ce pas ?
Oui, donc s'il a de tout son voyage, il n'a ramené que le Covid-19. C'est pas un grand succès.
Vous avez le droit à une clochette. Je vous souhaite un bel été. Vous partez un peu quand même, mon cher Pascal Boniface.
Dès lundi, j'attends à l'arrivée du Tour de France et dès lundi, je pars sur mon île de bas.
Excellent. Je vous souhaite un bel été, mon cher Pascal Boniface. Passez de bonnes vacances et si tout va bien, on se retrouve à la rentrée.
Avec grand plaisir, Adil.
Avec grand plaisir partagé. On vous embrasse tous, évidemment. Vous savez que les éditeurs ont suivi avec beaucoup de succès vos billets d'humeur. Merci à vous, mon cher Pascal Boniface. Prenez soin de vous surtout.
Je n'y manquerai pas. Merci, Adil.
On vous embrasse, à bientôt. 19h35, on lance la pub. On se retrouve avec Jessica Ellanger, avec Amine Saha, justement, pour continuer de parler, vous savez quoi ? Eh bien, des sujets qui ont retenu notre attention. Nous parlerons justement pouvoir d'achat.
Et de pouvoir d'achat, oui.
Bien sûr, si vous êtes d'accord. Mais surtout, je voudrais parler de Gérard Darmanin avec « Nous allons créer 1000 nouveaux postes de policiers ». À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. FM, 19h-20h,
Les informer avec Adil Farkan.
Ensuite, si vous voulez de nous retrouver, nous allons parler de policiers, de ces nouveaux postes créés. Laurent Lunez, qui est le tout nouveau préfet de police. Justement, ça y est, le ministre de l'Intérieur a dressé une feuille de route des promus. Mais en même temps, hier, vous savez quoi ? Il se dit que nous sommes prêts à réformer l'institution. Nous sommes prêts tout simplement à annoncer 500 postes de plus, voire 1000 dans la capitale. Enfin, 500 postes, nouveaux postes dans la capitale dans les 2 ans et 1000 dans les 5 prochaines années. Alors, messieurs, est-ce que d'abord cela est faisable ? Est-ce qu'on peut réformer l'institution ? Amine Sarr.
Bah, d'abord, quand il y a des annonces.
Avec ce tout nouveau préfet de la police. Tout nouveau préfet de police à Paris. Laurent Nunez, qu'on connaît. Hein. On connaît son professionnalisme.
Laurent Nunez, il a été ministre. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. En plus, il vient en remplacement de Didier Lallement.
C'est un bosseur.
Qui commençait à avoir très mauvaise presse compte tenu de sa gestion de la crise des Gilets jaunes, etc. Mais je suis toujours très, très heureux d'entendre des annonces où on annonce plus de services publics, hein, parce que plus de policiers, c'est plus de services publics. Après, il faut regarder, c'est pourquoi faire. La réalité, c'est que d'abord, on va accueillir un événement mondial, c'est les JO 2024.
Et donc, c'est pour ça que.
La feuille de route, oui, parce que compte tenu notamment de ce qui s'est passé au Stade de France il y a quelques mois,
le fiasco de la finale de
la Ligue des Champions, évidemment, ça a laissé des traces. Et puis, c'est d'abord, c'est ce que disait Laurent Nunez, c'est ma priorité, c'est Paris. C'est ça. Et donc, les JO de Paris, dans 2 ans, donc avec l'arrivée de 500 nouveaux policiers, et puis 500 à l'horizon de la fin du mandat.
Il fallait un homme comme Laurent Nunez.
Pardon ?
Il fallait un homme, une personnalité comme Laurent Nunez.
Oui, et puis il fallait quelqu'un de très proche du président surtout. Moi j'ai pas de commentaires à faire sur les choix présidentiels en matière de hauts fonctionnaires. C'est normal de choisir ceux qui sont proches.
Et puis il connaît la police, oui.
Et puis il connaît la police. C'est un ancien de la police, évidemment. Il a la confiance du gouvernement, il a la confiance du chef de l'État. Donc ça c'est plutôt bien en tout cas pour le gouvernement. Néanmoins c'est.
Mais qu'est-ce qu'on fait de ces postes ? Voilà c'est ça. Voilà, d'un côté 1000. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Jessica Langer. Alors, bon, comment on peut réagir à tout ça ?
Moi, je dis premièrement que Darmanin, il dit beaucoup de choses. Il y avait l'expulsion des migrants.
On les dire quoi qui passe son temps à parler ? Attention, hein, ouais, clochette. Hein.
Qui passe son temps, en tout cas, à dire beaucoup de choses qui, souvent, pour moi, montrent seulement qu'il est dans une phase de séduction, voire de drague de la droite, voire l'extrême droite. Et cette posture-là, elle est inquiétante parce que je pense que cette drague, elle va vite tourner au vinaigre et que cette séduction n'a pas lieu d'être lorsque les services publics, en général, sont mis à nu et que, depuis très longtemps, on demande des moyens. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi subitement et soudainement, alors Amine l'a très bien expliqué, pourquoi finalement...
Parce qu'il y a un plan d'action, il y a une feuille de route. Dans son plan d'action, il y a les JO, il y a aussi la lutte contre la drogue, il y a aussi
la délinquance,
et les consommations de crack, il y a ce phénomène qui connaît de plus en plus d'ampleur. Et qu'à un moment donné, chers amis Amine, ça et Jessica Longuer, il faut plus de policiers, il faut plus de caméras,
il faut plus de logements.
Vous l'avez dit vous-même, la délinquance, ça prend de l'ampleur.
Il nous faut plus de moyens dans les organismes de santé pour la prise en charge, pour le suivi. Ils ont
plus d'éducateurs, notamment.
Ils ont plus d'éducateurs, de prévention.
Exactement.
Il ne nous faut pas plus de policiers. On a armé la police municipale, on a donné plus de moyens aux policiers. Donc, je pense qu'à un moment, il faut voir le problème de la délinquance au-delà du problème police-individu.
Oui.
Et que c'est un problème qui est très large et qu'il faut traiter de fond en comble.
La préfecture de police aujourd'hui, vous savez quoi, elle compte, dans la capitale et la petite couronne, elle compte à peu près 27 760 policiers. Bon.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Jessica à l'instant. Je pense qu'il faut plus de policiers parce que plus de policiers, c'est un travail de la police qui est mieux réalisé. Parce qu'on le sait, les difficultés que connaît la police nationale aujourd'hui, c'est il y a des effectifs en baisse dans certains commissariats ou par ailleurs dans certains territoires où il y a de plus en plus de problèmes et on voit que ces territoires sont moins dotés.
Oui.
Le territoire que je connais bien, celui de la Courneuve, on manque de policiers au regard de la situation du climat qui règne.
Là, on manque de
policiers. Alors que dans d'autres territoires où notamment à Paris, dans certains quartiers.
Et la Courneuve, on les réclame en plus.
Voilà, on les réclame en plus. Et dans
je
Je sais parce qu'on me l'a dit ici.
Dans Paris, dans certains territoires où il y a moins de besoins, parce qu'il y a moins de difficultés sociales, il y a moins de difficultés en termes de délits, etc. Il y a moins. Il y a, exactement.
Bah, parlons-en.
C'est pas la réalité aujourd'hui.
Justement.
Quelles sont les villes qui sont concernées par une hausse de la délinquance ? C'est souvent des villes où il y a
un voilà un sujet de société. Avéré, vous en réclamiez vous.
Des villes où il y a un niveau de pauvreté.
Moi, je pense qu'il faut
avéré.
Les deux.
Donc,
je pense qu'il faut
le
les deux.
Problème, finalement, il faut trouver le moyen qui nous amène à la délinquance. Et quand on trouve les moyens qui nous amènent à la délinquance, on trouve finalement les solutions. Et je pense que au lieu de mettre finalement toutes les ressources dans la répression et dans l'oppression, bah, il faudrait plutôt les mettre dans le développement de chaque individu.
Enfin, moi, je pense quand même qu'il faut, il y a deux volets, c'est-à-dire qu'on peut pas, on peut pas se passer totalement du volet répressif. Évidemment, il faut de la prévention, il faut des éducateurs spécialisés dans les quartiers, il faut prévenir les dérives, etc. Et il faut se doter de moyens suffisants en la matière. Néanmoins, je pense qu'il faut que ce volet répressif, parce que il faut que l'action de l'institution aille au bout, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la phase prévention, il faut qu'il y ait une sanction aussi parfois pour amener des dérives qui prennent fin. Donc moi je suis plutôt pour qu'on mette les moyens sur ces deux volets-là, et aujourd'hui c'est manifestement pas ce qui est choisi dans la trajectoire que prend Gérald Darmanin, et c'est assez dommage. Et Jessica le disait tout à l'heure, Gérald Darmanin, il connaît la situation.
Vous risquez d'avoir des retours, parce que vous savez que à chaque fois que vous passez à l'antenne ici, je sais que vous êtes très écouté là-bas du côté de chez vous, Amine Sarr.
Ah bon, bah je.
Ouais, on en a parlé régulièrement d'ailleurs.
Tant mieux. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai pas de problème avec les annonces. Moi, elles me vont très bien. Néanmoins, la réalité, c'est que aujourd'hui, Gérald Darmanin, il connaît la situation de politique à l'Assemblée nationale, et donc il y a, on l'a vu dans le passé, pendant la campagne présidentielle, où il a dit à Marine Le Pen qu'elle était trop molle. Bon, on voit bien qu'il va essayer de séduire un petit peu les députés Rassemblement National, parce qu'il va avoir besoin de faire voter des textes à l'Assemblée nationale.
Jessica ?
Vu certaines postures du RN avec le gouvernement, je
Allez, on est totalement à l'opposition. Elle, ce qu'elle veut, c'est les logements. C'est, on s'en fout, le reste. Vous voulez pas de création de policiers, c'est ça ?
Non,
pas de nouveaux postes, pas de... On ne prépare pas les JO, on ne prépare pas les... Le plan d'action contre la lutte de, justement, de la délinquance. Non, Jessica, j'aime bien. Je ne sais pas où vous voulez aller, vous.
Bah, ce n'est pas où je veux aller. Ce que je dis, c'est que la délinquance, c'est... une cause à effet d'une situation. Et qu'au lieu de s'attaquer finalement à la fin, il faut commencer par le début. Qu'est-ce qui nous amène à ça ? Donc, et une fois qu'on a parlé de ces choses-là, je pense qu'on peut trouver toutes les solutions. Et moi, je trouve hypocrite que pendant des années, y compris les policiers, en effet, se plaignaient du manque d'effectifs, et que soudainement, parce que il y a les JO, les moyens, on les trouve.
Il vous a parlé, Amine Sarr, du fiasco au Stade de France. Vous avez vu ce que ça a provoqué ?
Le seul inconvénient, c'est qu'on ne sait pas si ces moyens vont être, vont être ensuite redéployés là où il le faut, ou est-ce que c'est uniquement des effets d'annonce en vue des JO, et puis pour faire un peu plaisir à un certain bord de l'Assemblée.
Bon, allez, on va parler de la Russie, direction la Russie, justement, où nous nous intéressons. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. J'ai envie de vous poser cette question-là, finalement, parce que cette guerre, elle est partie pour durer. Je crois qu'on en est à... quoi, 150e jour, il me semble, de mémoire, 147 ou 148e jour de guerre en Ukraine. Franchement, on peut se poser la question, et elle doit se poser, elle s'impose d'elle-même d'ailleurs. Quelles sont les intentions futures de Poutine, de Vladimir Poutine ? Qu'est-ce qu'il a envie de faire, Vladimir Poutine, le président russe ? Est-ce qu'il a envie de prolonger ce conflit en Ukraine ? Me semble-t-il que oui, quand on entend justement le directeur des affaires étrangères. Est-ce qu'il a envie de miser sur une capacité justement de son peuple à accepter certaines choses ? Je ne sais pas, sacrifier d'un côté pour une guerre plus longue. Bref. Franchement, on s'interroge, et puis le monde s'interroge aussi, et puis, de l'autre aussi, ce rôle de la CIA dans ce conflit qui se pose aussi de plus en plus. Alors, madame, messieurs, Jessica.
Alors,
franchement,
pour être très structuré...
Il brouille les pistes, hein, Vladimir Poutine. Hein.
Ben, c'est vrai qu'on a parlé qu'il y aurait des problèmes de santé, qu'il aurait été empoisonné par... Ça nous serait remonté par... un agent de la CIA.
C'est ça, c'est pour ça que j'ai fait exprès de parler de la CIA.
On se rend compte que finalement il est en très bonne santé, donc on ne sait pas vraiment qui va à la pêche aux informations, et on ne sait plus. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement...
On le dit malade aussi, hein. Attention, malade, atteint d'un cancer, justement.
Il prétend en tout cas être en bonne santé, donc ça c'est quelque chose qu'il faut entendre. La deuxième chose, c'est qu'il faut dire que les sanctions qui ont été émises par le monde occidental vis-à-vis de la Russie commencent à prendre effet. Et que Poutine est dans une.
Vous pensez qu'il est en position de faiblesse, la Russie?
Alors moi
j'ai l'impression que c'est plutôt l'Europe, hein, c'est plutôt.
Il se met dans une position où il souhaite s'isoler, c'est-à-dire que maintenant il parle du remplacement, donc du remplacement des entreprises, donc des géants occidentaux qui sont en Russie, qui seront remplacés par des grands patrons russes. Et donc finalement, on voit derrière cette posture-là, cette volonté en tout cas, c'est qu'il y a une volonté d'isolement. D'indépendance et que la Russie s'adapte et veut s'adapter plus vite en tout cas que l'Europe vis-à-vis des sanctions auxquelles elle encourt. Et ça, c'est un grand danger parce qu'on sait actuellement que la Russie, ça fait partie de l'un des premiers producteurs d'huile de tournesol. On sait que l'huile de tournesol a très augmenté en France. Production aussi de blé. Donc, c'est quand même un partenaire économique assez important et j'espère en tout cas, parce que du côté de la France, qu'on pourra aussi s'adapter et de revoir nous.
Donc conflit qui risque de se prolonger, hein, c'est ça. Notamment, vous savez qu'il y a la directrice du renseignement américain qui le dit, qui l'affirme d'ailleurs, hein, qui affirme devant des sénateurs, qui dit que effectivement le président Vladimir Poutine semble se préparer à un conflit qui risque d'être prolongé en Ukraine. Bon, je ne sais pas comment. Quelle grille de lecture doit-on avoir quand on entend ça, Aminsa?
Je crois qu'il a pas trop le choix en réalité. C'est-à-dire que, je pense, à chaque fois quand on s'engage dans des conflits comme cela, on croit toujours que ça va durer un temps. En réalité, on l'a vu, l'expérience, elle se répète. C'est-à-dire que on l'a vu avec les États-Unis qui ont fini par être enlisés en Afghanistan, en Irak, etc. Donc les Français aussi au Mali, en Libye. Bon, une guerre éclair, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, en plus, on a une situation de résistance de la part des Ukrainiens, avec notamment un soutien important de la part de l'Occident. Et donc aujourd'hui, ce qu'avait espéré Poutine, c'était clairement envoyer un signal fort à l'Europe et surtout à l'OTAN. C'était ça, je crois, son message de départ. Il voit bien qu'aujourd'hui, le conflit est plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Néanmoins, je crois qu'il n'a pas abandonné l'idée de renforcer la sphère d'influence de la Russie comme l'était l'URSS auparavant. Je crois qu'il a au fond de lui ce rêve.
Il profite de la guerre dans l'Ukraine pour aller rencontrer justement les alliés.
Bien sûr, je crois
qu'il a rencontré l'Iran, la Turquie, la Chinoise.
Il veut augmenter la sphère d'influence de la Russie.
Alors, l'Inde.
Je dirais pas qu'il veut aller jusqu'à réinstaurer le rideau de fer, hein, mais on voit bien qu'il y a une volonté de sa part de repousser les frontières de la Russie, notamment pour protéger la Russie de l'invasion potentielle des Occidentaux. Je pense que ça doit résonner un petit peu comme ça dans son esprit. Et donc, il n'arrêtera pas le conflit en Ukraine tant qu'il n'aura pas pris le contrôle total de l'Ukraine.
Quand je vous posais la question, notamment, j'étais en train de me dire, moi, je me permets de vous soumettre peut-être une idée, c'est est-ce que Vladimir Poutine, est-ce qu'il espère pas tout simplement que les États-Unis, à un moment, vous savez quoi, tout simplement, face à cette détermination, quand on regarde, est-ce que Poutine n'attend pas qu'il y ait une pénurie alimentaire, que cette inflation touche l'Union européenne plus précisément, et que cette coupure d'énergie s'aggrave? Est-ce que c'est pas ça son intention?
Non, parce que ce serait se mettre en difficulté et mettre en difficulté la Russie. On l'a d'abord l'inflation qu'on connaît en Europe et particulièrement en France. L'inflation, elle a commencé bien avant le conflit avec l'Ukraine. Bien avant la crise ukrainienne. On a eu la crise sanitaire qui avait déjà engagé de grandes difficultés.
Elle s'est aggravée.
Bien sûr, elle s'est aggravée, c'est évident. Mais néanmoins, je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit du fait de la Russie ou des actions russes sur le sol ukrainien. Et donc, je pense que évidemment, il va poursuivre. Néanmoins, on l'a vu, ils viennent de réouvrir le Nord Stream 2 là, qui était officiellement en arrêt pour entretien. En réalité, c'est que la Russie est en train de subir les difficultés économiques qui ont été d'abord de son propre fait sur un certain nombre de d'actions qu'elle a menées, mais néanmoins
la voie diplomatique est difficile à imaginer, les amis.
C'est très compliqué. Il y a quelque chose que tout à l'heure, Monsieur Boniface a dit qui était super importante, c'est que aujourd'hui, le monde occidental n'a plus l'approbation du tiers-monde, en tout cas totalement. Et de ce fait-là, bah, la Russie, elle n'est pas aussi dans une planète Mars, elle le voit finalement. Et si elle peut demain, bah, du coup, chercher des territoires où elle peut mener son influence et pourquoi pas compenser les manques. Les manquements par d'autres pays, etc., elle le fera.
Mmh. Et puis l'Occident a poussé la Russie dans les bras de la Chine depuis plusieurs années maintenant.
Est-ce que Poutine, il n'a pas des intentions de conquête, justement, au-delà du Donbass?
Clairement.
Au-delà du Donbass. C'est pour ça qu'il veut faire perdurer le conflit.
C'est possible.
Ça n'a jamais été un secret qu'on était dans une guerre impérialiste, de toute façon, et que... même si on sait qu'on est très loin de la guerre froide, les relations sont restées telles que. Et aujourd'hui, ben, on voit qu'il y a eu des dépassements. Et donc, du coup, ce sont.
C'est pourquoi, d'ailleurs, finalement. Un certain nombre de pays, comme la Moldavie, par exemple, sont en train de frapper à la porte de l'Europe en demandant leur adhésion à l'Union européenne.
Donc, quand je vous entends parler, il veut gratter, quoi. Il veut grignoter.
Oui, bien sûr.
Il veut grignoter une partie du territoire de l'Ukraine. Ah
bah,
quoi.
Plus il repoussera les frontières de la Russie.
La Crimée, le Donbass.
Plus il pense être en sécurité vis-à-vis de l'Occident.
Donc, si on est dans une logique de cohérence géographique, chers amis, ça veut dire que c'est parti pour durer.
C'est parti pour durer.
C'est ça?
C'est malheureux à dire parce que encore une fois,
je sais pas si c'est malheureux à dire, mais en tout cas, bon.
C'est malheureux à dire parce que ça impacte l'économie française. Et moi, je pense que après, bon, je me fais du souci pour l'économie française et je pense que dans cette crise, on a mal géré notre sortie. On a envoyé. Alors, on est dans une période de guerre, de toute façon, tout se fait dans l'urgence, mais tout le monde subit.
Il va brandir la menace nucléaire à un moment ?
Non, j'y crois pas. Mais je crois.
C'est une menace existentielle ?
Oui, ça fait 70 ans qu'on. Non, mais clairement, moi.
Il n'y a pas de menace plutôt existentielle.
C'est de la dissuasion surtout, mais ce que je crois surtout, c'est que la solution, elle viendra des Russes. Pas de Poutine.
Vous dites ça, mais à New York, il y a une présentatrice, il y a 15 jours, qui commençait qui préparait moralement et psychologiquement d'une menace.
Je crois que s'il y a une solution, elle viendra de l'intérieur de la Russie ou peut-être de l'entourage direct de Vladimir Poutine, puisque la Russie est en train de payer un lourd tribut dans ce conflit. Il y a déjà plus de 500 morts côté russe, plusieurs milliers de blessés.
Merci, je vous souhaite un bel été, Aminsa.
Merci, Adil Farkan. Début du mois prochain.
Bonnes vacances et à la rentrée,
merci
si tout va bien.
Merci beaucoup à vous aussi.
Jessica Longuerre, bonnes vacances.
À bientôt.
Et à bientôt à la rentrée, si tout va
c'est
bien.
Ça.
Merci à vous, Jessica Longuerre, qui est élue sur la ville de Creil. Aminsa, qui est élue sur la ville de la Courneuve. À demain, c'est dernier jour.
Ouais, la dernière des dernières de la saison.
Bilal Nedman, de 20h à 21h. À demain avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.